soir, les gens venus pour conférence du château, comme la soirée va être assez fournie, je vais vous présenter les conférenciers. Alors, Michel Bouard, à votre gauche, a passé toute sa vie professionnelle dans le cinéma et la télévision. Tout d'abord, mettant à profit sa formation de technicien en construction micromécanique, il commence son parcours chez Beaulieu Cinéma en France, au service des études, puis chez Payard dans la branche Bolex.
Comment il s'appelle ?
Hein ? Michel Bouard. Comment s'appelle-t-il ? Donc il continue chez Hermès Précisa, où il a l'opportunité de réaliser des films d'information et publicitaires. En 81, la société lui propose un partenariat pour créer sa propre entité de production audiovisuelle, qu'il dirige pendant 32 ans. Plusieurs centaines de films de commande, spots TV et publicitaires pour des multinationales, des entreprises et des collectivités en sortiront. Parallèlement, il s'investit pleinement dans le lancement de la télévision régionale Canal NB, qu'il dirigera pendant 14 ans. Dans les années 70 et 80, il a été lauréat dans plusieurs festivals amateurs, dont celui de Cannes, et en festival professionnel, il a remporté celui des films d'entreprise de Biarritz et Zurich. En 2002, à la demande d'Henri Fornat, il accepte de le remplacer à la présidence de la fondation Bolex sous le Fay. En plus de ses responsabilités au sein de cette fondation, il maintient aujourd'hui un pied, pour ne pas dire deux, dans le monde du cinéma amateur. En plus de la fondation Bolex sous le Fay, il a développé une activité de digitalisation pour transférer les anciens films 8 et Super 8 sur DVD et clé USB et collabore avec la société Archinage Digital pour les autres supports vidéo et photos. Vous avez compris, le cinéma, et tout particulièrement le cinéma d'amateur, c'est sa passion. Il s'érige aujourd'hui en fervent défenseur de ce patrimoine vivant. À votre droite, Stéphane Trollongo est président assistant à la section d'histoire et esthétique du cinéma de l'Université de Lausanne. Docteur S. Lettres et art, il est l'auteur d'une thèse sur l'émergence du spectacle cinématographique en France. Elle a été réalisée à l'Université de Lyon 2 et à l'Université de Montréal. Membre de l'équipe de chercheurs du projet FMS, Histoire des machines et archéologie des pratiques, Bolex et le cinéma amateur en Suisse, sous la direction de Benoît Turcotti, il a notamment publié « L'œil électronique, Bolex et la précision suisse à l'époque de l'automatisation ». Dans le cadre de ce projet, il est aussi l'un des commissaires de l'exposition « La machine Bolex, les horizons amateurs du cinéma » qui a eu lieu à la Cinémathèque des Pays de Savoie et de l'Ain, à Verrières-sur-Lac, qui a fermé ses portes en octobre 2017. En partenariat avec la Cinémathèque suisse, il prépare actuellement des programmes historiques de films liés aux caméras Bolex qui seront présentés à la 53e journée de Soleure qui aura lieu du 25 janvier au 1er février 2018. Bonne aventure.
Bien, bonsoir. On m'avait dit de 30 personnes. Alors ça me déstabilise déjà au début, mais enfin on va quand même y arriver. Alors, moi je vais parler du cinéma amateur. Le cinéma amateur aujourd'hui a un siècle. La gravure que vous avez, c'est pas quelqu'un qui filme un saut un jour de bise au bord du lac de Neuchâtel. C'est une ancienne publicité de 1936, et j'ai pensé que ce dessin illustrerait bien la conférence. Avant de parler du cinéma amateur, je vais vous rappeler quand même quelques éléments concernant l'invention du cinéma. C'est venu bien sûr de la lanterne magique. La gravure que vous avez ici à l'écran date de 1860 et on projetait des images fixes. Tout de suite, on a essayé de les animer par un jeu de deux plaques de verre en le faisant par effet stroboscopique, en les faisant animer. Et a démarré les inventions d'à peu près une bonne vingtaine que l'on appelait praxinoscope, folioscope, kinétoscope, tachyscope électrique, n'en faisait que de reproduire des mouvements soit à partir de dessins ou de photos. La première vraie caméra qui est née est une caméra faite par un monsieur Bouly en 1892 qui n'a jamais marché et par contre ce qu'il a laissé c'est le nom, le cinématographe, et ce nom va être repris par les frères Lumière qui vont un petit peu s'inspirer du kinétoscope d'Edison, récupérer de la pellicule chez Espagne, Kodak, et partir d'un film 35 mm. Et là, le cinéma est né. On reviendra sur les frères Lumière dans quelques secondes. Ça, c'est leur caméra. Leur caméra était en réalité un système réversible, c'est-à-dire que l'appareil faisait à la fois la prise de vue, on enlevait le dos, on mettait de la lumière derrière, ça devenait un projecteur. C'est pratique et c'est économique. On arrive au cinéma amateur. Finalement, le cinéma amateur, la limite entre amateur et professionnel est assez floue. On dit que le premier film amateur qui a été tourné, c'était Le repas de bébé. En réalité, c'était André Lumière, André avec un E, c'était une petite fille, et qui était la fille d'Auguste Lumière. Pour information, les frères Lumière étaient mariés aux sœurs. C'était donc les frères étaient mariés aux sœurs, c'est-à-dire les sœurs Winkler. Pourquoi il n'y a pas de limite entre amateur et professionnel? C'est que le film, le repas de bébé, ça s'appelle, en réalité, les frères Lumière ont tout de suite projeté en salle payante avec l'arrivée du train à La Ciotat, les sorties d'usine, l'arroseur arrosé, etc. Donc, quand on dit que c'était le premier film amateur, on l'a quand même exploité professionnellement. Je vais essayer de... Ça, c'est la pub de... La première pub de Paillard à Paris dans les années 50. On va retracer l'histoire du cinéma amateur en réalité à travers les formats. Et c'est une bonne base pour suivre. La guerre des formats, en réalité, s'est surtout passée au début entre la maison Pathé en France et Kodak aux États-Unis. Pour distinguer les différents formats, vous avez ici de haut en bas le 16 mm. Ensuite, le 9,5 avec sa perforation centrale, le 8 mm et le Super 8. On va donc retracer l'histoire de ces formats. Le premier, en réalité, le cinéma a été très perturbé au début car la pellicule était au nitrate de cellulose et extrêmement inflammable. Et notamment, il y a eu un drame en 1897 au bazar de la Charité, qui réunissait surtout un petit peu la haute bourgeoisie parisienne et la noblesse, qui a fait 126 morts. Ça a freiné un petit peu, mais les études pour faire une pellicule ininflammable étaient déjà commencées, donc ça n'a fait que retarder de quelques mois l'histoire du cinéma. Le premier format que je vais vous parler, c'est le format 28 mm, créé par Pathé. Nous sommes en 1912, ce format va durer jusqu'en 1920 à peu près. Alors là, déjà, la petite guerre entre Pathé et Kodak, on la reconnaît parce que Pathé, c'est le vrai nom, et on fait coq. Bon, le symbole de Pathé, c'est un coq, mais il met un K pour faire croire que c'est un peu le rapprochement de Kodak. Tous les goûts sont permis. Voilà une pellicule 28 mm. En acétate de cellulose, c'est-à-dire que ce film-là était ininflammable. Et ça, c'est là que vraiment le cinéma a démarré. La caméra qui était utilisée était une caméra forcément à manivelle. Alors, dès qu'on parle de caméra à manivelle, il faut automatiquement mettre un pied. Imaginez de filmer en tournant une manivelle, ça ne doit pas être brillant. Chaque tour de manivelle faisait 12 images à la seconde. Et le caméraman chantait une chanson qui s'appelait « Sans bremeuse ». Alors, si vous voulez écouter et essayer de tourner la manivelle en même temps, voilà ce que ça donne. Pathé-Coq était aussi un autre monument. Donc il était portable, il fait 30 kg, et vous tournez une manivelle. Et la particularité, c'est que quand je dis qu'il est portable, c'est qu'il y avait une lampe d'éclairage. Alors quand vous tourniez la manivelle, ça faisait avancer non seulement le film, mais ça faisait tourner aussi une dynamo qui alimentait la lampe. Une vraie machine de guerre, qui ressemble beaucoup d'ailleurs à une machine à coudre. Arrive le premier grand boom dans le cinéma amateur, c'est le format 9.5. Ils appelaient Pathé Bébé. Alors ce film a quelques particularités intéressantes. D'abord, la perforation est centrale, ce qui permet d'utiliser toute la surface de la pellicule. Et il fallait faire des économies. Alors, quand on filmait, quand il y avait des images, bon, ça c'est bon, ça tourne à la bonne vitesse, mais quand il y a des titres, il y a un système d'encoche sur le côté qui était mis en face du titre, il y avait un petit doigt qui traînait le long de la paroi, et à chaque fois qu'il y avait un titre, le petit doigt se rentrait dedans et ça bloquait net le film. Donc on avait le temps de lire, ensuite on débloquait le doigt et on repartait. Le pâté, le format 9-5, donc, a été surtout connu au début parce qu'ils avaient développé tout un catalogue de films éducatifs, soit religieux, soit des Charlie Chaplin, Laurel et Hardy, soit des visites, soit des trucs sur les reines, etc. Et ils avaient plus de 2000 titres dans leur catalogue. Chaque bobine durait 1 minute 40. Et donc, ça allait assez vite. Et ce qui fait que ça développé la vente de projecteurs, Pathé en a vendu à ce moment-là 300 000. Ça, parce que c'est joli, alors je l'ai mis, j'ai trouvé que les petits enfants étaient mignons. Ensuite, la caméra 9-5 est arrivée, parce qu'il fallait vraiment filmer les scènes de famille. La première caméra était à nouveau à manivelle, donc il fallait la mettre sur pied. Et il y a un Suisse, Camo, qui a inventé un moteur qui se mettait sur le côté en 1928. Et là, on arrivait avec gros progrès, on pouvait filmer en appuyant sur un bouton, c'est un moteur donc Arcelor. Et on pouvait filmer environ 15 secondes à peu près. Voilà le projecteur Pathé Baby, où on mettait les chargeurs en haut, ça venait dans cette petite boîte ronde qui est en dessous, ensuite on bobinait le chargeur. Format suivant, le format 16 mm. Le format 16 mm, qui existe toujours d'ailleurs, a été lancé en 1923 par Kodak, donc réaction contre Pathé, contre 9-5 qui commençait à avoir beaucoup de succès. Et le format 16 mm a subi beaucoup de changements, c'est-à-dire qu'en haut vous avez la double perforation, ensuite on a supprimé une perforation pour mettre soit une piste magnétique sonore, soit une piste optique. La piste optique a été utilisée notamment, le format 16 mm a été utilisé notamment, je ne sais pas si vous vous souvenez, des Scopitone, c'est-à-dire les films où il y avait, c'était le début des clips, quoi. Voilà la première caméra qui était une caméra américaine, Victor. Et on passe au format suivant qui est le 17-5. Pathé réagit contre le 16 mm et en réalité crée un format qui est le 17-5 qui est la moitié du 35 mm classique. Pourquoi Pathé rural? Parce qu'en réalité le film, il ne va jamais exister de caméra. Il va y avoir des projecteurs. Et ces projecteurs, les gens se promenaient dans les campagnes, principalement françaises, pour faire des projections dans les cafés, même dans les maisons de paroisse, etc. Le format 17-5 a déjà été créé en 1898. C'était une pellicule 35 mm qui était malheureusement inflammable et avec une perforation centrale. C'est pour ça que ça durait très peu de temps. Il n'y avait qu'une caméra, c'était ce qu'on appelait la biocam. Mais alors, le 17-5 va avoir une histoire assez tragique parce qu'il va mourir avec la guerre. Les Allemands, en France, avaient découvert qu'une très forte collection de pâtes de films 17-5 pâtes rurales était une sorte de propagande anti-nazie. Et ils vont ramasser tous les films qui traînent en France, on n'en trouve pratiquement plus, et même prendre des projecteurs pour les transformer en 16 mm. Eux tournaient la guerre en réalité soit en 16 mm, soit en 9-5. Va arriver enfin le format qui s'est le plus développé, qui est le format 8 mm. En réalité, c'est un film 16 mm coupé en deux. Ceux qui ont filmé en 8 mm, je pense qu'il y en a. Au bout de 7,5 mm, on devait sortir la bobine, la retourner et recommencer de l'autre côté. La première caméra qui est sortie était aux États-Unis, elle coûtait $30, c'était bien sûr Kodak qui l'avait fabriquée, et ils vont introduire la couleur en 1935. Ça c'est le projecteur Kodak. Le 8 mm va être le début d'une grosse industrialisation un peu partout en Europe, et même aux États-Unis surtout, et beaucoup de fabricants vont se lancer dans le 8 mm, dont, vous devez connaître, Payard. La dame qui filme, en réalité, cette caméra est un des plus gros succès qui a jamais été fait car il se faisait à Sainte-Croix jusqu'à 800 caméras par jour dans les pointes, ce qui est beaucoup. Je vous demande de retenir aussi cette image car on va la retrouver un peu plus tard d'une autre façon. Ça, j'ai mis cette image parce que je la trouve drôle. En plus, c'est une caméra très féminine qui se mettait dans la poche. Mais sa particularité, c'est qu'elle a été fabriquée au Liechtenstein, dans des usines qui appartenaient au prince Franz Joseph II. Pour info, je vous montre aussi le 9-5 duplex. C'est un format qui n'a pas du tout fonctionné. Le 9.5, il a eu deux perforations. Comme pour le 8 mm, quand on avait fini de tourner, on retournait la bobine. Et surtout, la particularité, c'est que ce film tournait d'une façon horizontale. Donc là, vous avez la caméra et en dessous, vous avez le projecteur avec justement sa position des bobines qui est horizontale. Va arriver enfin les formats Super 8, Single 8 et Double Super 8, qui sont les mêmes films avec des noms différents. Je vais essayer de vous expliquer la différence. Ça, c'est le format Super 8. Alors, c'était la grande bombe dans le cinéma amateur développée par Kodak, mais qui n'était de loin pas le format idéal, parce que le presseur qui presse le film dans le couloir était intégré à la cassette. Et ce qui fait que ça obligeait aux fabricants de caméras d'avoir une tolérance pratiquement au micron dans le couloir. Et techniquement, c'était pas au point, on ne pouvait pas revenir en arrière, par exemple. Dans les mois qui ont suivi, la société japonaise Fuji va connaître ce problème et va sortir, elle, sa propre cassette où le presseur est dans la caméra. Par contre, il y a un défaut, c'est que le film est en polyester, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le coller avec de la colle, on doit le coller avec du scotch. Quelques années plus tard, va sortir le double Super 8, qui est un format 16 mm coupé en deux. Et chose absolument étrange, il n'y a que deux grandes marques qui vont se lancer dans ce Super 8 professionnel, c'est les maisons Pathé et la maison Beaulieu. Et bizarrement, Payer Rolex ne va pas se lancer là-dedans. Si j'ai mis cette image qui est là, c'est que vous voyez une caméra qui est une caméra Vebo M, et en réalité elle était construite par un Suisse qui s'appelle Jean Westbroot, qui avait les plans, qui avait la caméra, le prototype. Il est venu chez Pathé, il a présenté cette caméra, ils l'ont acceptée et elle marchait très bien. C'est un peu l'histoire de Bolsky en parallèle, mais je dirais pas plus. Stéphane va vous en dire un peu plus longtemps sur cette aventure. Format suivant, alors juste une chose encore, naturellement le Super 8, vous le savez tous, a très très mal démarré chez Bayard, c'était vraiment la catastrophe, ils n'arrivaient pas du tout à mettre au point. Quand Beaulieu sortait déjà le Super 8 en 1965, c'est-à-dire en même temps que Kodak, qui était et Bayard a sorti ses premières caméras en 67 à peu près, et c'était très très moyen. Alors j'ai mis cette image parce que le Super 8, je pense, a contribué peut-être à un peu la vie de Payard dans ce domaine. Ensuite, il y a le format encore Kodak qui va lancer son Super 8 sonore, Ektasound. Ça sera le dernier format cinéma qui va sortir, avec une caméra relativement chère et surtout le son est collé sur la piste, ce qui interdit tout montage. Sachant qu'entre l'image, les prises de vue et la tête de son, il y a 18 images d'écart. Donc vous ne pouvez pas couper un film comme ça parce que sinon vous coupez le son qui est décalé. On va passer maintenant à l'évolution des caméras, des projecteurs et des accessoires. Je vous rappelle juste comment fonctionne en gros, parce que ça c'est le seul système qui n'a pas évolué dans une caméra. C'est une griffe qui descend le film, donc qui l'amène à descendre. L'obturateur à ce moment-là est dans l'image. Ensuite, la griffe se retire, l'obturateur s'ouvre et l'image impressionne le film, et cela 18 ou 24 ou 25 images par seconde. Ça, ça n'a jamais bougé. Comme c'est un mouvement alternatif qui est avec un mouvement continu, c'est pour ça qu'il y a des boucles à l'entrée et à la sortie. Alors, les progrès qui ont été exécutés, d'abord l'évolution dans l'optique. Au début, les premières caméras étaient mono-objectifs. Il y en avait même qui ne se réglaient pas du tout. Ensuite, on a fait le réglage du diaphragme et après le réglage de la distance. Comme se fabriquait aussi des téléobjectifs et des grands angles, si on voulait mettre un télé ou un grand angle, il fallait dévisser l'objectif et changer. Alors, c'est apparu un truc plus facile, les tourelles. Vous n'avez plus qu'à tourner soit grand angle, soit téléobjectif, soit objectif normal. Ensuite est apparu le zoom. Alors, autre problème, plusieurs problèmes. Le zoom, il fallait avoir soit une visée réflexe, soit un viseur optique couplé au mouvement, parce que vous voyez comment marche un zoom, donc quand l'image bouge, il faut que ça bouge dans le viseur aussi. Et l'inventeur, il y a eu deux inventeurs de zoom, mais le plus connu était la maison Berthiaud, et là je vous montre un pancineur. Alors naturellement, le problème du zoom, c'est que ça mangeait beaucoup de lumière, et l'ouverture en diaphragme était relativement faible, donc il fallait avoir un bon éclairage pour filmer avec un zoom, en tout cas au début. L'évolution dans l'entraînement du film. Alors, à nouveau, au début, on tourne une manivelle, la caméra doit être sur pied. Ensuite, on va tourner toujours une manivelle, mais c'est pour remonter un moteur harceur. Si j'ai mis la paillard Volex, c'est une HL, je pense, ou une H8, je ne sais pas, c'est que ce moteur durait environ 35 secondes, ce qui est absolument énorme. C'était le désespoir notamment de Marcel Beaulieu, qui lui arrivait péniblement à 25-28 secondes. Et vous l'aurez bien voulu connaître le secret. Le secret, en réalité, c'était que l'ingénieur qui a construit cette caméra, Marc Renault, avait repris le moteur du gramophone de Paillard, ce qui fait que la durée, le moteur était très résistant et la durée était forcément plus longue. Ensuite, on va électrifier la caméra, d'abord avec un moteur électrique d'appoint, puis ensuite le moteur sera mis dans la caméra. Si je laisse cette image à l'écran, c'est qu'il y a eu un problème. Surtout chez Pathé Webo, c'était des caméras qui étaient très utilisées par les explorateurs dans les conférences connaissances du monde. Et quand vous partez avec une caméra avec un moteur électrique en forêt amazonienne ou dans les marécages, les batteries ne durent pas longtemps. Ce qui fait qu'ils ont dû créer un moteur additif harceur qui se branchait sur une caméra électrique. Ensuite, ça c'est pour l'anecdote, ce que je la trouve très drôle, c'est une caméra faite par un monsieur André Liconi à Paris qui était un fervent défenseur du 9.5. Et lui avait cru trouver la solution pour que la caméra dure plus longtemps, enfin le mouvement dure plus longtemps. Il avait mis des batteries solaires. Et ça s'est fait en 1960. Alors bon, l'idée est bien. Le seul problème, c'est qu'il fallait 12 heures de soleil pour avoir une minute d'image. Vous imaginez qu'en vacances, c'est un peu handicapant. Ce qui fait que vous pouvez filmer tous les deux jours. Ensuite, l'évolution dans la mesure de la lumière. Alors, au début, il y avait des petites tablettes, je ne sais pas si il y en a qui se souviennent, c'est-à-dire que vous aviez la possibilité, je crois que c'était soleil avec nuages très couverts, et puis ça vous donnait le diaphragme automatiquement. Ensuite, vont apparaître des cellules qui font coïncider, ça vous donne exactement le diaphragme que vous mettez sur votre caméra. Ensuite, on a mis ces cellules sur la caméra. On faisait coïncider la bague, on tournait la bague de diaphragme, on mettait l'aiguille au centre. Et puis ensuite, on va enfin intégrer directement dans la caméra pour ce qu'on appelait la photométrie. Donc ça marchait avec un galvanomètre. Le galvanomètre ferme un volet et ouvre qui se ferme. Et là, il y a eu un petit débat avec les puristes. C'est qu'en réalité, si vous mettez un système de volet derrière un objectif, ce n'est pas tout à fait optiquement juste. Ce qui fait que Beaulieu va créer une caméra où la bague de diaphragme de l'objectif est vraiment manœuvrée par un moteur électrique qui, lui, est commandé par un galvanomètre. C'est peut-être trop technique, mais je voulais quand même le préciser. Ensuite, dans les viseurs, alors là, vous comprenez comment ça marche. Vous mettez votre œil dans le petit tronc, dans le petit trou, et puis vous regardez plus ou moins, c'est comme dans un fusil. Hein. Puis là, vous avez un petit rectangle, ça vous donne à peu près où vous pouvez viser. C'est une précision extraordinaire. Ensuite, vous avez les viseurs optiques, c'est le système de Galilée. Alors, j'ai mis cette photo parce qu'il y a à l'arrière un petit bouton qui tourne, et ça, c'était pour corriger la parallaxe. C'est la parallaxe, la différence qui est entre l'axe du viseur et l'axe de l'optique. Si vous filmez très près, vous avez le décalage c'est la distance entre le viseur et l'optique, donc vous avez un décalage. Là, vous pouvez corriger, vous mettiez 1 mètre, 1,50 mètre, 50 cm. Va apparaître ensuite la visée réflexe. D'abord, naturellement, sur les zooms, et puis ensuite, va venir dans les caméras, ça c'est une Nexam par exemple, et qui se marche soit par un prisme, soit par un verre semi-réfléchissant, ou même directement sur l'obturateur. Ensuite, on passe au projecteur. Alors, l'évolution des projecteurs s'est faite comme celle des caméras. Par exemple, le Pathé Lévy s'est retrouvé d'un seul coup avec un moteur électrique. Donc c'était l'électrification. Les lampes ont beaucoup changé au fil des décennies. Les projecteurs sont devenus triformat ou biformat. Il y avait deux fabricants de projecteurs triformat, c'était Bolex et Dortier. Et puis ensuite, il y avait la télévision. Alors la télévision, on voulait singer la télévision, donc on a commencé à faire des projecteurs où l'image était projetée sur un faux écran de télévision. Ensuite, la maison Bolex, Fayer Bolex, a voulu lancer son projecteur avec des cassettes. Je ne sais pas s'il y en a dans la salle pour ce genre de projecteur. S'ils en ont, je leur demanderai si ça marche. Ensuite, l'évolution dans le son. Bon, là, c'est drôle. La première image, c'est un projecteur Paillard. Alors, vous avez le projecteur à gauche. Derrière, vous avez le tourne-disque. Donc, on faisait de l'ambiance en projetant. Ce projecteur a une particularité, c'est qu'il est biformat. Il faisait du 9,5 et du 16. Il est facilement transportable. Il pèse 80 kg. Est arrivé le magnétophone, où l'amateur cinéaste pouvait mettre de la musique de son choix, mettre des commentaires. Comme un était équipé, donc lui, d'un moteur à 5 ohms, et puis le projecteur était équipé d'un moteur à 5 ohms, si la projection durait trop longtemps, le décalage était de plus en plus grand, on n'arrivait pas à l'attraper. Alors, il y a plein d'inventeurs qui sont mis à innover et faire des systèmes de synchronisation où le magnétophone commandait la vitesse du projecteur. Il y a eu plein de systèmes qui ont existé, dont un chez Bayer. Ensuite est arrivé le double bande, c'est-à-dire d'un côté vous avez le film et de l'autre côté vous avez la bande magnétique. Là, ils sont obligés d'aller ensemble, il n'y a pas de problème. Et puis enfin, il y a eu les projecteurs avec piste couchée. Ça, c'est un beau lieu parce que j'ai pas mis un Bayard pour la bonne raison qu'ils n'en ont pas fabriqué, ils les faisaient fabriquer en Italie. Les accessoires pour filmer, bon, il n'y a pas beaucoup de... Tout le monde connaît le cinéma, je pense, ici dans la salle. Mais c'était pour dire que pour faire du cinéma, il fallait quand même avoir un peu d'argent. Parce que non seulement il fallait acheter une caméra, non seulement il fallait acheter un projecteur, mais il fallait acheter des accessoires. Il fallait d'abord acheter un pied, ensuite il fallait acheter une lampe, parce que les films n'étaient pas toujours sensibles. Il fallait acheter une colleuse. D'ailleurs, il y a une personne qui m'a apporté une colleuse, alors je la montre. Elle est là. Merci beaucoup. Il y avait des colleuses à moteur aussi. Ensuite, il fallait une visionneuse. Hein, vous devez vous rappeler. Il fallait un écran. À la limite, on peut mettre un drap. Et il fallait une table de projection. Donc, ça fait quand même pas mal. Alors, donc on a tout le matériel. Maintenant, on peut commencer à réaliser. Donc, plusieurs catégories de cinéma, de cinéastes amateurs. Il y a d'abord ceux qui filmaient, qui recevaient la cassette, enfin la bobine, qui la mettaient dans le projecteur, qui regardaient leur film. Ensuite, ils mettaient la bobine dans une boîte et l'aventure était terminée. Ensuite, il y avait la deuxième, c'est ceux qui commencent à faire du montage, c'est-à-dire qui commencent à enlever les scènes mauvaises, à faire du collage, à pondre. Et puis, il fallait mettre des titres. Donc là, j'ai trouvé une machine titrée, justement, qui équipe avec une paillarde. Et puis, alors, ceux qui sont très, très perfectionnés, qui participent à des concours, etc., qui font des films très sonorisés, très élaborés. Il existait dès les années 50 une abondante littérature sur comment filmer. Il y avait même des livres avec des projets de scénario. Il y a eu beaucoup d'éditions de ce domaine. On va passer maintenant dans les fabricants dans le monde, parce que Paillard n'était pas tout seul, et loin de là. On va commencer avec les Français, parce qu'il y a eu exactement 40 fabricants de caméras et de projecteurs en France. Ils étaient tous à la recherche de la caméra idéale. Il n'y en a pas beaucoup qui ont survécu. Aujourd'hui, il n'y a plus personne. Mais les principaux, je vous en parlais. Il faut savoir qu'il y a eu entre 5 et 6 000 caméras différentes qui ont été faites à l'époque de la publicité. Alors, à la conquête du monde, Pathé Frères... Alors, j'ai essayé de prendre que des trucs de publicité parce que je trouve ça rigolo. Pathé Frères, alors, ils sont très optimistes parce que 1894, trait d'union, 1900, on ne sait pas quand est-ce que ça se termine. Tout ça bien. Alors, ça, c'est la pub de Beaulieu, donc c'est l'autre fabricant en France. Ils étaient 250 personnes, donc toute petite entreprise, extrêmement performante. Et son ennemi juré, c'était Bayer, Bolex. Alors, quand Bayer Bolex a sorti son macro zoom, où on pouvait filmer jusqu'à 3 cm, quelques mois plus tard, Beaulieu sortait une pub, la macro cinéma doit aller jusqu'à 1 mm du sujet. Ensuite, je vous mentionne Cinegel qui était au Mans, qui était un fabricant surtout de projecteurs et caméras simples. Emel, qui est singé un peu les belles OL américaines. J'ai mis Axam parce que le patron s'appelait Mascré, et puis il cherchait désespérément un nom pour sa marque, alors il a pris Mascré à l'envers, ce qui fait Axam. L'idée n'est pas mauvaise non plus. Ça, c'est Ortier, ils ne sont pas loin d'ici, c'est à Saint-Étienne. Eux, c'était excellent en projecteur biformat, et en tout, ils ont fait pendant leur vie professionnelle, leur vie industrielle, 600 000 projecteurs. Il y avait aussi les objectifs Berthiaud, dont lui le père du Zoom en réalité, et c'est la seule société qui reste encore vivante, c'est Ingénieux, qui a été rachetée par le groupe français d'armement Thales, et c'est eux qui fabriquent les objectifs naturellement pour l'armée, mais aussi pour les satellites. Ils sont vraiment très performants. J'ai quand même mis une pub, en arrivant en Suisse, j'ai mis une pub de Paillard, j'ai dit je ne vais pas prendre trop de trucs Paillard parce que je sais que Stéphane va vous en parler, alors je me dis j'en parle pas trop. À un moment, Bolex Paillard s'est lancé dans le film pour le film en relief. On ne peut pas dire que ça a été un succès, mais au moins il fallait essayer. Il y avait des fabricants d'optique. Alors dans les fabricants d'optique, il y avait Gerd, Suitard, Ivar et Meyer. Principalement. Et ça, c'est un projecteur absolument étonnant, que c'est un projecteur de la marque Dixie, donc pas loin d'ici, mais ils n'ont fait que ce projecteur seul. On va passer ensuite aux Allemands, qui, beaucoup de marques restent, hein, encore, Boer, Niso, design exceptionnel, Noris, qui était très bon dans les projecteurs sonores, et Agfa. Alors Agfa faisait des films, il faisait des caméras, enfin il faisait faire. Si je m'arrête un peu sur cette image, pas à cause de la dame, c'est le fait que si vous avez des films 8 ou Super 8 Agfa, c'est assez catastrophique. Ces films ne tiennent pas la durée dans le temps. Et il y a de fortes chances qu'ils soient devenus tout rouges, contrairement à Kodak, Pictachrome, Kodachrome. Agfa, Ferrania, Perutz, la couleur sans. Ça, c'est Zeiss qui avait fait une caméra, je la trouve rigolote, on croit que c'est un appareil photo. Le film tourne en parallèle à vous, et c'est un prisme qui prenait le signal, qui prenait l'image. Les Autrichiens, eux, MIG, toujours une pub un peu ambiguë, qu'importe le modèle. Ensuite, eux, MIG donne toujours le ton. Et Dietmar. Alors Dietmar, c'est aussi une belle histoire. Dietmar, c'était des caméras, donc on est toujours en Autriche, des caméras qui étaient utilisées aussi pendant la guerre, et notamment, naturellement par les Allemands, en 16 et en 9.5. Et ces caméras, non seulement étaient utilisées par les Allemands, mais ont été utilisées aussi par la résistance française, par le maquis, parce qu'ils piquaient les caméras dans les camions, dans les trains des Allemands, dans les gares en province. Ce qui fait qu'une grande partie des films du maquis sont tournés avec des caméras autrichiennes. J'ai appris ça récemment. Les Italiens, eux, n'ont fait surtout que des projecteurs. Silma, qui fait aussi des projecteurs de Bolex. Fumeo. Le matériel russe, très peu sont arrivés en Europe de l'Ouest. Le niveau mécanique, c'était pas terrible. Au niveau optique, c'était excellent. Le matériel russe au niveau de la photographie du cinéma, c'est surtout les appareils photo qui sont arrivés en Europe de l'Ouest, notamment avec la marque Zenith. On va passer l'Atlantique. Kodak, je vous en ai déjà parlé, c'est quand même une société qui est née à la fin du 19e siècle. Je m'arrête un petit peu sur la Bell EOL parce que la Bell EOL, on voit derrière un chargeur, c'était pour 8 mm, c'est un film 16 mm coupé en deux. Pourquoi je vous montre cette photo? C'est parce que juste avant l'arrivée du Super 8, la maison Paillard-Bolex était prête à sortir une caméra dont en 8 mm, dont on n'avait plus besoin de sortir le film pour le retourner. Il suffisait de tourner le boîtier en haut et on partait. Keystone, Reverret, tout ça c'est des marques américaines. Ça c'est Fairchild, je crois, oui, qui est recyclé aussi dans l'armement maintenant. Chinon, on arrive au Japon. Alors la caméra qui est la deuxième au fond est une caméra qui a été fabriquée et qui avait 14 habillages différents pour 14 marques différentes. Je ne sais pas si vous vous souvenez de photo travers, interdiscount, etc. C'était des chinois qui étaient radiés. Elmo, je crois qu'ils ont fait du 16 aussi. Aiki. Canon. Excellente caméra. Sankyo. Et puis naturellement la grosse marque Fuji, qui est toujours existante, qui faisait de la pellicule, qui était le grand concurrent de Kodak. Ensuite est arrivée la vidéo amateur. C'est marrant parce que j'avance dans les générations, alors j'ai l'impression qu'on devient de plus en plus jeune. Alors, ça c'est le format VHS qui était le concurrent de Betamax. Alors le VHS était surtout utilisé au début dans des magnétoscopes pour enregistrer des émissions à la télévision qu'on voulait garder. Et ensuite on a fait des caméras. Mais avec la dimension de cette cassette, les caméras étaient forcément assez conséquentes. Donc, ils ont créé le VHS-C, c'est-à-dire des petites cassettes qui se mettaient dans un boîtier que l'on mettait dans son magnétoscope de salon pour voir ce qu'on avait filmé. Ça tenait à peu près la route au niveau mécanisme. Ensuite, naturellement, la bagarre, c'est toujours entre Matsushita, c'est-à-dire JVC et Panasonic, contre Sony. Sony réagit, lance son 8 mm, qui est des petites caméras, puis le i8, qui va devenir aussi un support pour le digital, et les mini-DV. Il faut aller vers la fin, c'est-à-dire qu'on va vers la vidéo tout doucement. J'appelle ça de l'écran de cinéma à la vidéo. Il faut savoir qu'en Suisse, si on prend chaque habitant, selon Kodak, il a été tourné 15 minutes de film par habitant. C'est-à-dire qu'il y a 1,5 million d'heures qui traînent en Suisse de films argentiques. Alors, il faut à tout prix les sauvegarder. Il y a plusieurs techniques, il y en a qui essayent de filmer leur écran. Il y a une action donc pour les mettre en DVD ou en USB par télécinéma. Donc, c'est ce que je fais de temps en temps. Et je me suis dit, j'arrive là à ma première conclusion. C'est-à-dire que je vais faire une belle image où je vais mettre le télécinéma devant et à l'arrière-plan, la lanterne magique de 1860. Et ce n'était pas sans compter sans Kodak et sans Bolex. Donc, je devais faire une deuxième conclusion. Car il y a 2 ans, la maison Kodak a voulu relancer le Super 8. C'est-à-dire que, comme tout le monde, on relance tout ce qui est vieux, c'est-à-dire les 33 tours, le Polaroid, bientôt les cassettes audio. Ils ont sorti une caméra Super 8 avec sa cassette et vous envoyez votre film et vous receviez votre film développé ainsi qu'un DVD. À première vue, ça n'a pas l'air de marcher. Ensuite, j'ai eu un deuxième événement, c'est qu'une société aux États-Unis a voulu lancer une nouvelle caméra digitale avec le nom de Bolex, et je me suis dit, bon, je peux terminer là-dessus, c'est l'avenir, bon, ça ne marche pas. Il ne faut pas que je termine là-dessus. Donc, j'ai cherché une conclusion à mon exposé, et finalement, Jean Rochefort est décédé. Vous allez me dire, là, il commence à me débloquer complètement, parce que qu'est-ce que vient faire Jean Rochefort avec le cinéma amateur? Et en réalité, Jean Rochefort venait de sortir un livre avant son décès qui s'appelait Ce genre de choses. Et absolument extraordinaire, il filmait avec une caméra de 5 mois. Voilà.
Bonsoir à toutes et à tous. Je souhaiterais d'abord simplement remercier les organisatrices et les organisateurs de leur invitation. Et je suis très honoré de parler à côté de Michel Brouard et puis en présence d'une si nombreuse assistance. Et je voudrais remercier en particulier Elisabetta. Il s'agit d'une nouvelle recherche que je vous présente aujourd'hui, qui fait suite à des recherches sur Bolex que nous avons déjà entreprises depuis 2-3 ans. et qui ont donné lieu déjà à une exposition qui s'intitule « La machine Bolex, les horizons amateurs du cinéma », dont j'ai déposé le petit livret que vous trouverez à l'accueil, à votre disposition. Mais la présentation que je voudrais vous faire aujourd'hui s'intitule « Bolex avant Bolex, aux origines du cinéma d'amateur en Suisse ». Et elle souhaite en fait modestement replacer dans leur contexte historique les films de ce pionnier du cinéma d'amateur en Suisse, qu'est Jacques Bolski, dont Michel Brouard a déjà prononcé le nom, et ces films qui sont actuellement en cours de numérisation à la Cinémathèque Suisse, et sur lesquels Roland Cossandet notamment a déjà écrit de très belles lignes et des choses très documentées. Donc, au début des années 1920, la vulgarisation de la pratique du cinéma n'est déjà plus une utopie. En 1923, les réclames pour le projecteur de salon Pathé Baby, qu'on vient de voir à l'instant, s'étalent dans la presse suisse, et l'annonce de la caméra Ciné Kodak pour l'amateur est en train de défrayer la chronique scientifique. Mais, de fabrication suisse, le cinégraphe Boll, imaginé cette année-là par Jacques Bolski, semble arriver vraiment à point nommé. Pourtant, en fait, la lutte s'annonce difficile, notamment parce qu'il s'agit de lutter contre la firme puissante française Pathé. Pathé qui organise dès le printemps 1923 de la réclame autour de sa caméra entre guillemets, hein, puisque c'est pas encore le nom qu'on a adopté pour tous les appareils, qui est destinée, cette caméra Pathé, à compléter assez simplement le projecteur de salon Pathé Baby, qui a été commercialisé vraiment avec succès l'année précédente. En janvier 1923, donc aucune caméra n'est encore dans le commerce, et pourtant un film est tourné en extérieur, vous en voyez une image ici, à titre d'essai de la caméra Pathé par les ingénieurs qui travaillent à son développement. Il s'agit donc d'un test technique, mais ce test se double aussi d'une fonction commémorative, puisque le film vient fixer sur la pellicule le mariage de l'un des ingénieurs Pathé, un dénommé Georges Moreau. Dans le cas de Pathé, comme dans le cas de Bolski, les concepteurs d'appareils, hein, ces ingénieurs, s'emparent en fait de leur création, souvent avec une adresse qui confine à la virtuosité technique, mais aussi avec vraiment un désir d'appropriation et d'application immédiate du cinéma dans leur vie privée. Cinéaste autant qu'inventeur, Jacques Bolski est en effet le premier usager de ces appareils de cinéma et il en explore au quotidien les potentialités techniques. Ici, vous voyez la publicité pour la fameuse caméra Pathé Baby qui sortira bien plus tard, mais Pathé fait déjà toute une réclame, hein, tout un battage en 1923. On est en avril, on nous dit que le livret est parti à l'impression. En ce sens, donc, les films que Jacques Bolski va tourner avec ses proches dès les années 1920 sont vraiment loin d'être banal. Au contraire, il réalise un idéal, celui du cinéma d'amateur, auquel l'inventeur a la chance, parmi quelques élus seulement à cette époque, d'accéder en priorité. Fondé sur des qualités d'automatisme, de portabilité et de polyvalence de l'appareil, on le voit déjà ici, hein, la portabilité avec cet appareil qui se soulève à la main, ce cinéma d'amateur va s'incarner dans un cinéaste qui devient mobile, capable de transporter son matériel avec lui, vraiment partout où il va, mais surtout de filmer dans le mouvement même de son déplacement, qu'il soit à pied ou véhiculé. Vous pouvez filmer pendant que vous êtes en train de marcher, et c'est ce que je vais vous montrer dans un instant. D'abord, un mot sur l'annonce de l'invention du cinégraphe Boll, qui produit quand même un certain effet dans la corporation, dans le milieu du cinéma. Dans la foulée du congrès international de l'exploitation cinématographique, auquel participe Jacques Bolski en 1923, une rumeur se répand, notamment sous la plume du critique français Charles Vogel, qui écrit dans le journal, je cite, « Un ingénieur de la libre Helvétie aurait inventé un type d'appareil cinématographique tout à fait extraordinaire et nouveau, propre à déclencher une révolution dont les conséquences peuvent être énormes. » Vous voyez, on attend beaucoup, hein. Dans le journal La Suisse, du 31 décembre 1923, le critique de cinéma et futur cinéaste Jean Chou confirme pleinement cette nouvelle. Il relate sa rencontre avec Jacques Bolski, l'inventeur de cet appareil cinématographique, aux vertus si nombreuses, nous dit Jean Chou, qu'il ressemble à une anticipation à la Wells. Je cite Jean Chou, qui a pu manipuler l'appareil. Agréable à voir, à porter, à manier, à manœuvrer, le cinégraphe Boll est un appareil photocinématographique à la fois simple, robuste, léger et de volume réduit, qui, sans exiger d'accessoires supplémentaires ni de transformation, permet de faire, et là tenez-vous bien, la liste est longue et propre décidément à susciter quelques surprises, l'un quelconque des travaux suivants. Prise de vue animée. Le magasin contient 30 mètres de film. Projection de vues animées, donc il est réversible comme le cinématographe lumière. Prise de vue fixe, image par image, etc. C'est d'autant plus intéressant qu'on peut, à la projection, arrêter le film et projeter l'image fixe. On voit ici, dit toujours Jean Chou, l'avantage pour l'enseignement par l'écran. Et encore, tirage de positif pour projection fixe ou animée, agrandissement photographique, projection en plein jour. Donc, dans cette boîte compacte qu'est le cinégraphe Boll, Jean Chou entrevoit rien de moins que l'essor d'une industrie nouvelle en Suisse, prolongement du savoir-faire helvétique en petite mécanique. Originalité de conception, construction impeccable, précision méticuleuse, telles sont les qualités d'emblée dégagées de l'appareil et qui l'ancrent dans cette tradition horlogère locale. Selon les dires de l'inventeur lui-même, l'appareil atteint donc le summum de la simplicité, faisant entrer la technique du cinéma dans l'ère de la vulgarisation complète, donnant l'impression que la manipulation de son appareil est un jeu d'enfant. L'inventeur atteste au journaliste de la revue suisse du cinéma qui est venu l'interroger, je cite, « Le fonctionnement de l'appareil est extrêmement simple et un enfant de 8 ans peut obtenir avec le bol des vues parfaitement nettes. » Dans cette logique publicitaire, Jacques Bolski saisit la chance de remettre un exemplaire du cinégraphe Boll au jeune Jackie Coogan, la jeune vedette du film The Kid de Charlie Chaplin, lors de son passage à Genève en 1924. Posant pour une photographie avec les deux mains sur l'appareil, l'acteur américain, qui n'est encore qu'un enfant, vient opportunément renforcer l'idée que le cinéma est devenu un jeu d'enfant. Que le cinéma devienne accessible techniquement a déjà de quoi surprendre, mais qu'un objet technique permette d'exécuter, je cite, toutes les opérations de la cinématographie, qu'il groupe en un seul appareil trois appareils distincts, à savoir l'appareil de prise de vue, l'appareil de projection et la tireuse à positif, comme le dit Jacques Bolski devant la Société genevoise de photographie, voilà qu'il ne manque pas de vraiment déconcerter l'imagination. Réversible comme le cinématographe Lumière, donc, l'appareil cumule plusieurs machines en une seule. On dirait un studio à lui tout seul, caméra, projecteur, tireuse, etc. Quelques mots sur l'activité de la compagnie Boll créée par Jacques Bolski. Derrière cette invention, il y a donc un homme d'origine russe à l'identité fuyante et à l'activité débordante, Jacques Bogopolski, né en 1895 et décédé en 1962 aux États-Unis. Ou plutôt Bolski, comme on l'appelle pendant ses années suisses. Mais loin d'être complètement isolé dans ses recherches, Jacques Bolski est bien entouré. On le dit secondé dans la réalisation de son projet par des spécialistes. Albert Chalut, ingénieur, et Auguste Padiani, docteur en sciences et conseiller scientifique à la compagnie Boll. Implantée dans le quartier des Acacias, l'usine de la compagnie Boll occupe en 1924, nous dit Jacques Bolski, une centaine de personnes œuvrant à la conception et la fabrication des appareils. Bureau directorial, laboratoire de recherche, salle de décolletage, salle de montage, salle des essais, etc. Tout cela est réuni à la compagnie Boll. Alors, un journaliste qui va rencontrer Jacques Bolski dans son usine écrit « Monsieur Bolski, dont l'amabilité n'a d'égal que la modestie, car il est très modeste, et il appelle son cinégraphe Boll appareil de reportage et d'amateur. Bien que je possède des lettres de professionnels qui m'ont déclaré en être tout à fait satisfait. Monsieur Bolski nous montre quelques accessoires perfectionnés, entre autres la cuve Boll, brevetée, qui forme à elle seule un laboratoire complet d'amateurs. Dressant un état des lieux de la technique du cinéma d'amateur au milieu des années 1920, le livre Le cinéma, qui fait partie de la collection L'Encyclopédie par l'image, insiste sur ce projet de simplification à l'extrême qui est à l'origine du cinégraphe Boll. La volonté de miniaturisation du matériel d'amateur se repère notamment dans la cuve à développer. Je cite, la maison Boll, qui a cherché à éviter l'encombrement des cuves ordinaires, ainsi que la nécessité de préparer des bains abondants et par conséquent très chers, a créé une cuve très ingénieuse où la quantité de liquide nécessaire est réduite à sa plus simple expression. À sa plus simple expression, c'est une sorte de leitmotiv qu'on retrouve à la base de l'invention de Jacques Bolski. Mais toutefois, sur son chemin, Bolski rencontre de nombreux problèmes. J'en ai repéré ici un, remarqué par l'instituteur suisse André Erler. André Erler est attentif au projet d'enseignement par le cinéma. Et il a suivi notamment le projet de Jacques Bolski de créer un institut de l'enseignement par l'image lumineuse à Genève en juin 1926. Et il écrit. Que trouve-t-on dans cette exposition ? Il vient d'assister à une exposition et il s'exclame. Que trouve-t-on dans cette exposition ? Qu'ose-t-on y présenter ? Je vous le donne en mille. Deux appareils projecteurs pour film réduit, une enrouleuse, un appareil de prise de vue pour film réduit, un appareil projecteur pour vue fixe sur pellicule. Les appareils sortaient tous de l'usine Bolski dont la réputation, trois petits points. Alors, c'est plutôt une attaque difficile contre Bolski, et forcé de reconnaître dans cette tournure une mauvaise publicité pour Bolski, André Erler nuance ensuite son point de vue sur les appareils suisses et publie un mot d'excuse où il concède qu'il a lui-même utilisé les machines Boll et qu'il s'en est, je cite, fort bien trouvé. Mais tout va de mal en pis, et la société Longines, qui va sous-traiter la fabrication de caméras pour Polsky, fait un état des lieux déplorable à la fin des années 1920. Donc ici, vous voyez la compagnie Boll au moment de son activité en 1924. Et puis, quelques années plus tard, la compagne de Polsky posant devant l'usine, certainement en partie désertée. Donc, à la société Longines, voici ce que l'on dit à la fin des années 1920. Le département Bolex a travaillé pendant l'année entière sur le programme convenu de 2500 pièces à livrer donc à Jacques Polsky. Nous avons confirmé formellement notre intention de ne pas entreprendre d'autres commandes et en avril 1930, cette fabrication aura vécu chez nous. À diverses reprises, les fournitures d'optique ont manqué et il fallut en outre accorder à cette société des facilités financières. Les espoirs de fabrication de grandes séries ne paraissent pas réalisables. Et c'est sans regret que nous arrivons au terme de la tâche assignée, d'autant plus que les fréquentes modifications des modèles admis amenèrent des perturbations dans la fabrication. Ils sont soulagés de se défausser de cette fabrication. Mais j'en viens au point qui m'intéresse. Voilà, j'ai essayé de remettre un petit peu en contexte le travail de Jacques Polsky en Suisse. J'en viens au film tourné par Jacques Polsky. Les films les plus anciens de Jacques Polsky ont la valeur technique d'un test du matériel, un petit peu comme le mariage qu'on a vu de l'ingénieur Pathé, qui permettait de tester la caméra Pathé-Bell. Mais Jacques Polsky fait aussi rapidement appel à la valeur mémorielle du cinéma d'amateur, c'est-à-dire à sa capacité à générer et conserver du souvenir. Heureux possesseur d'un appareil personnel de prise de vue, il fait partie des rares particuliers à pouvoir capturer au moyen du cinéma les moments d'intimité qu'il partage avec sa compagne, Mariette, ses enfants et ses amis. Lorsqu'il demande à Mariette de poser à proximité de l'usine des Acacias, comme on l'a vu tout à l'heure, qui arbore le nom Société Anonyme Boll, il met peut-être encore à l'épreuve ses appareils, notamment dans le cas des plans rapprochés, puisqu'on voit qu'il y a une mise au point assez approximative sur les visages. Mais dans le même temps, donc si on regarde au-delà de l'essai technique, il réalise des premiers plans, comme on les appelle alors, sur le modèle du portrait filmé, saisissant au plus près de la femme aimée l'émotion exacerbée par l'appareil de prise de vue qui est placé entre eux, dans un rapport très évident de séduction. L'aventure technique de l'invention de caméras coïncide donc pour Polsky avec l'aventure amoureuse avec Mariette, donnant à Polsky l'opportunité de fixer sur la pellicule l'expression éphémère du bonheur traversé. D'autant plus éphémère que quelques années plus tard, il va émigrer vers les États-Unis tout seul. Loin de toujours tenir l'appareil, Jacques Polsky le fait circuler. Il met entre les mains de Mariette, qui filme à son tour avec aisance, et qui réalise déjà, à l'échelle du petit cercle des amis de l'inventeur, le rêve du cinéma pour tous, vers lequel tendait Polsky. au moment où Mariette va prendre l'appareil. Et composé donc une sorte d'idylle champêtre avec Jacques Wolski que vous voyez ici. Voilà. Dans les films qu'il tourne en privé, Jacques Wolski donne encore vie à ce cinéaste mobile dont je parlais, véloce, rapide, prêt à prendre une vue à l'improviste, comme il l'écrit dans la description d'un étui pour caméra, un brevet d'étui pour caméra en 1927. Il incarne donc un opérateur à la gestuelle spontanée. Il est capable de saisir un événement sur le vif, voire à la sauvette, se précipitant la caméra à la main. Lors du passage du dirigeable allemand Le Graf Zeppelin à Cointrin en 1930, la caméra est portée, actionnée par l'opérateur pendant qu'il marche en direction du site d'atterrissage, produisant des secousses qui restituent l'effervescence de la foule des spectateurs à l'approche du dirigeable. Objet de toutes les attentions, le dirigeable est photographié et cinématographié par des opérateurs qui sont, eux, professionnels et qui surgissent d'ailleurs dans le champ de l'appareil de Jacques Wolski. Ici, on a l'impression de voir, mais peut-être que vous me le confirmerez, un appareil de brique fermement ancré sur son trépied. Si les images de Jacques Wolski sont plus bougées, elles ne relèvent sans doute pas seulement du souvenir, car l'opérateur filme depuis un point de vue privilégié, recouvrant le champ de l'opérateur professionnel au moment de la descente du pilote. Donc ici, on voit la descente du pilote, sans doute un opérateur professionnel juste devant lui, et puis ensuite encore des photographes à l'arrière-plan. J'essaie de vous montrer ce film. Tant pis, j'avais un merveilleux film sur les zeppelins à vous montrer, mais il ne fonctionne pas. Je pourrais vous le montrer juste après. Pour conclure, en conclusion, ce n'est pas à Genève que l'industrie rêvée par Jean Chou se déploiera dans toute son ampleur, comme vous le savez sans doute déjà. Conçu pour la pellicule de 35 mm, l'appareil de Wolski doit céder la place à des modèles qui sont moins coûteux et adaptés au nouveau format que Kodak destine à l'amateur, le 16 mm, ou le format 9.5 mm que Pathé destine à l'amateur. Si le succès commercial n'est toujours pas au rendez-vous, l'inventeur, Jacques Wolski, a toutefois ouvert la voie en Suisse à une conception de l'appareil de cinéma fondée sur la portabilité, la légèreté, l'automatisme. Ce qui n'était au départ qu'une conjecture hasardeuse est devenu une réalité économique au tournant des années 1930. Jacques Wolski, qui œuvre en faveur d'une organisation en club des cinéastes amateurs, voit ses idées se vérifier dans l'apparition d'une nouvelle sorte de cinéaste, le cinéaste amateur. Dans la revue de Lausanne, le 5 juin 1934, il en fait l'heureux constat. Je le cite, « Le cinéma est entré dans le domaine des larges possibilités et aujourd'hui, quiconque peut faire du cinéma au même titre qu'il aurait pu, il y a quelques années déjà, faire de la photographie. En 1930, 2 ans après avoir fondé à Genève une nouvelle société consacrée à la fabrication d'appareils pour filmer 3, Bolsky, son partenaire, cède donc la totalité de leur affaire à l'entreprise de petite mécanique, Paillard et compagnie. Issu de la tradition de l'horlogerie et des boîtes à musique qui a fait la renommée de la région, Paillard est surtout connu à cette époque pour ses gramophones, vendus sur tous les continents. Mais insatisfait du rendement de sa branche de machines à écrire et craignant le contre-coup de la crise économique de 1929, le président Albert Paillard voit l'acquisition de Bolex comme l'occasion de se positionner rapidement sur un nouveau secteur d'activité. Le rachat ne se fait pas sans heurts et divers problèmes, qui pourraient prendre une autre conférence, et précipite d'ailleurs rapidement la rupture entre Paillard et Bolsky, qui quittent l'entreprise en 1932, avant la fin du contrat qu'il avait négocié. C'est alors à Marc Renault, jeune ingénieur de 26 ans, embauché depuis peu, qu'incombe la conception de cette nouvelle caméra Bolex. Une caméra qui réponde aux standards de qualité et aux modes de production de l'entreprise. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Nous allons introduire le film Messagère Messe, dont je dois dire qu'il est dans une qualité assez mauvaise, hein, puisque la numérisation que vous allez voir a été effectuée sur table de visionnage, mais on a le projet évidemment de numériser en haute qualité ce film et éventuellement de le rééditer, puisque c'est effectivement un très beau film, qui prépare d'ailleurs, qui annonce d'une certaine façon le film Image Vivante, que vous connaissez peut-être.
Alors le film Image Vivante, qui a été réalisé par le même réalisateur du film que vous allez voir maintenant, le premier, Image Vivante, a été réalisé 2 ans après par Revel, qui travaillait comme reporter à la télévision, je crois, et qu'il a passé, donc imaginons passera dans la salle de l'autre côté pendant l'apéritif ou la boisson. Et l'autre film, Sylvie en safari, qui est un film Super 8 que j'ai réalisé en 1974, c'est lui qui avait gagné une médaille d'argent à Cannes, qui mettait en avant surtout la possibilité de la macro avec une Bolex. Et j'ai aperçu tout à l'heure que l'actrice était présente dans la salle. Bien sûr, on est en 1974, aujourd'hui on est en 2017. Celui qui la reconnaît aura de la chance.
On peut mettre le son plus haut.